La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 18 juin 2026, il est 19h02, à l'heure où je vous parle, vous bienvenue dans la matinale de 19h. Je tiens à vous dire quelque chose ce soir en introduction de cette émission exceptionnelle de la matinale, une semaine avant la fin de la saison de Radio Campus Paris. Il fait chaud! Voilà, je tenais à vous le dire en mon âme et conscience, voilà. Il fait chaud, je tenais à le dire à quelqu'un parce que je ne me suis pas assez plaint sur les réseaux sociaux et surtout les canaux qui sont à ma disposition. Je voulais en faire part à mes chers auditeuristes adorés, voilà. Je vous mets mon adresse mail à disposition dans la description du podcast. Si vous voulez vous plaindre à votre tour de la chaleur ou peut-être si vous êtes peut-être fou de la froideur, si vous avez trop de clim, si vous êtes peut-être riche, je ne sais pas. Je vous invite à me contacter à l'adresse disponible dans le podcast et pas du tout que je vais donner à l'antenne. Ce soir, nous sommes la dernière de la semaine de la matinale et c'est parti tout de suite pour le sommaire. Ce soir au sommaire, nous recevrons Philippe Le Caplain, interviewé par Vladimir, qui nous parlera de son livre qui vient de sortir. Nous recevrons aussi Fabien pour son Flash Info. Et au Zoom, nous aurons aussi Camille et Théophile de Petit Bain, interviewé par Betty. Et nous aurons également la chronique Astrid, la chronique actu de Astrid et bien sûr la chronique de votre inénarrable animateur, Gauthier, en fin d'émission. La matinale de 19h du 18 juin 2026, c'est parti.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et on retrouve tout de suite Philippe Le Caplain, interviewé par Vladimir. Bonsoir Vladimir.
Bonsoir, bonsoir Gauthier, et bonsoir à toutes et à tous. Et puis surtout, bonsoir Philippe Le Caplain.
Bonsoir Vladimir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous sortez du coup le 3 juin 2026 votre nouveau livre, L'Homme qui tombe, aux éditions Libris Ferra. Alors c'est un livre qui a un propos assez singulier puisque il prend part, en tout cas il prend sa place, il s'intéresse aux événements du 11 septembre 2001. L'attentat des tours jumelles à New York, notamment à travers une photo extrêmement célèbre d'un homme qui tombe des tours jumelles. Alors on va commencer déjà par une première question que vous posez en introduction de ce livre-là et que vous posez souvent aux personnes qui vous entourent. Vous étiez où le 11 septembre 2001 et vous vous souvenez de quoi?
Je me souviens très bien de ce jour-là, de l'endroit et de ce que je faisais, puisque j'étais tout simplement à la radio. J'avais présenté la session d'information de la mi-journée à Paris, ce qui correspond à la matinale à New York. Et il me restait un journal à présenter. Et sur les écrans de télé, on avait toujours des écrans de télé qui tournaient, etc. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne d'info, c'était LCI. Et avant que les chaînes classiques basculent en édition spéciale, et l'essayer à diffuser l'image de la tour 1 en feu. Bon, et je me souviens avoir lancé à la cantonade dans la rédaction, je prends une option sur le titre La Tour Infernale, qui était un film qui a obtenu 3 Oscars dans les années 70. Et je regarde ça, bon, et puis moi pendant 25 ans, je m'occupais d'aviation. Donc c'est à peu près comment ça fonctionne. Et bon, ciel bleu, pas de vent, bon, ouais, c'est vraiment pas de chance quoi, de s'encastrer une tour.
Un accident bête, bizarre quoi.
Et quand le deuxième avion est venu percuter, donc là en direct, puisque la première percussion on ne l'a pas vu en direct, là je me suis dit non, là, ça peut pas être deux fois un manque de chance. Donc là, bien évidemment, on essaye de joindre nos correspondants, c'est très difficile, les lignes sont surchargées, etc. Et moi je présente le journal une heure après, j'ai fait ressortir l'archive là, d'ailleurs ça fait tout drôle de se réécouter 25 ans après, on n'a pas tout à fait la même voix d'ailleurs, et puis à un moment donné il a fallu passer la main quand même à l'équipe suivante et je suis rentré chez moi, mes enfants avaient 21 mois, mes jumeaux, et j'avoue que j'étais terrifié après avoir eu l'adrénaline du professionnel qui doit commenter et puis garder ses nerfs. Quand je suis rentré, j'étais terrifié, je me suis dit mais dans quel monde ils vont grandir.
Et on va justement revenir justement sur ce monde-là qui a quand même beaucoup bougé, mais peut-être pas tant que ça depuis cet événement si marquant du tournant du 21e siècle. Votre livre, que je voulais appeler un essai tout à l'heure, vous m'avez repris justement parce que ce n'est pas un essai, c'est plutôt un récit qui s'inspire d'une photographie très très célèbre de ce moment-là, qui a été prise par Richard Drew, un photographe légendaire de la presse américaine, qui montre en une photo d'un homme qui tombe, qui a 3 secondes de la mort, d'un homme qui tombe sur le fond justement de ces vitres-là si reconnaissables du World Trade Center. Et vous partez de cette photo-là pour vous inspirer dans ce récit que vous écrivez, l'homme qui tombe. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cette photo-là vous inspire ?
Alors cette photo, on ne l'a vue que le 12 septembre aux États-Unis, le lendemain des attentats. Elle a dû arriver en France le 13, les jours suivants, dans les magazines, etc. Et donc moi, j'en avais le souvenir de cette photo. En radio, vous le savez très bien, Vladimir, on s'adresse qu'à un sens, l'ouïe, et donc on parle. Et on doit décrire. L'image, c'est différent. Et ça crée une émotion différente. Et cette photo était restée imprimée en moi. Et puis, il y a plusieurs fois, elle est revenue comme ça. Elle a ressurgi, mais je l'ai évacuée. Et il y a 3 ans de ça, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Le saut vers la liberté de Patrice Rumden, qui raconte l'histoire de ce Vopo, c'est-à-dire de ce garde-frontière est-allemand qui saute par-dessus les premières briques du mur de Berlin.
Une photo légendaire au péril de sa vie, d'ailleurs.
Et donc, dans ce livre, l'auteur s'est intéressé à qui était ce soldat, qui était le photographe, comment la photo a été prise, pourquoi l'Allemagne à l'époque l'Allemagne de l'Est n'a pas voulu voir cette photo, etc., etc. Et ça, là, ça a fait ressurgir cette photo définitivement. Et je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Donc, mais c'est pas d'écrire un livre ou de faire une enquête, hein. C'était juste perso, on va dire. Et puis, j'ai commencé à chercher. Et puis, bah, vous savez ce que c'est que ce qu'on fait sur Internet, hein. On tire un fil numérique.
Surtout quand on est journaliste.
Et ça en finit pas. Et vous y passez la soirée, la nuit, etc. Et puis, vous commencez à apprendre des choses pas possibles, très intéressantes. Et au bout d'un moment, vous dites, non, mais il faut que je le partage. Mais je ne voulais pas faire un article. Je voulais pas faire un documentaire de plus. Et je me suis sur mon plan de travail, dans mon bureau, je m'étais fait un post-it. Tu n'es pas journaliste, tu n'écris pas un article. Justement pour arriver à faire un récit, pas un essai effectivement, puisque je défends aucune thèse, mais un récit. Et donc de raconter. Et de raconter ce drame mondial par le biais d'un homme et d'une photo.
Alors justement, du coup, une des thèses fortes, du coup, cette photo avait fait scandale. Ce que vous décrivez vous-même, c'est que cette photo avait fait scandale et même avait été, on peut dire, censurée, au moins auto-censurée, au pays pourtant de la liberté d'expression. Pourquoi ?
Ben, cette photo, donc, elle est parue le 12 septembre. Et aussi sec, les protestations ont été nombreuses. Quand je dis nombreuses, c'est des dizaines de milliers. À ceci près qu'à l'époque, le téléphone c'était fait pour téléphoner. Mmh. Et même pas de SMS ou très peu. Donc le seul moyen d'exprimer son mécontentement, c'était d'appeler les rédactions au téléphone avec un numéro de fixe, ou c'était d'écrire au courrier des lecteurs. Et ça a été une bronca, du genre c'est inadmissible, c'est voyeuriste, vous êtes des charognards, vous n'avez pas honte de montrer un homme en train de mourir. Bah oui, mais c'était la seule personne qui a été vraiment photographiée ce jour-là. On a vu un ciel bleu, on a vu des tours, on a vu de la fumée, on a vu des gens recouverts de cendres mais bien vivants quand ils fuyaient Ground Zero. Mais la seule personne qui a été photographiée, et vous le précisiez tout à l'heure, encore vivante, ce n'est pas un cadavre, ce n'est pas encore, allez, on joue sur les mots, mais ce n'est pas encore une victime des attentats, ce sera quelques fractions et quelques palpitements de cœur plus tard. Ça, c'était insupportable pour l'Amérique. Parce que l'Amérique est pourtant voyeuriste, bah là, pudeur. Parce que l'Amérique s'est rendue compte qu'elle était vulnérable, alors que elle régentait le monde entier, elle pensait qu'en 89, elle avait convaincu le monde avec la chute du mur de Berlin, on y revient, que son modèle
grand gendarme du monde,
voilà, et donc c'était terrible. Et puis la guerre pour les Américains, ça a toujours été ailleurs. C'était à Verdun en 17, c'était dans les Ardennes en 45, c'était en Corée en 53, au Vietnam en 73, etc., en Afghanistan, mais là c'était chez eux, et c'est la première fois qu'ils étaient frappés sur leur sol. Alors bien sûr, il y a eu Pearl Harbor à l'époque, c'était à des milliers de kilomètres de là,
puis c'est une base militaire, hein.
Et Hawaï n'était pas encore un état américain, et donc là ils sont pris ça en pleine face. Et puis quand même, il faut le dire de manière très cynique, quel coup de maître de la part des terroristes. Et ça, c'est une humiliation de prendre ça en pleine face, quoi.
Cette photo symbolisait à elle seule, en fait, finalement, la petitesse de cet empire gigantesque qui était à la merci aussi de coups comme ça. Et donc, du coup, c'est sans doute pour ça que les gens étaient autant choqués de la voir. Notamment parce que ça touchait à la fierté d'un État.
Absolument, absolument. D'accord. Alors que, ils n'étaient pas, par exemple, les Américains n'étaient pas pudiques et pudibons quand, pour la guerre du Vietnam, par exemple, vous avez peut-être le souvenir de cette photo d'un colonel sud-vietnamien soutenu par les États-Unis qui fiche une balle en la tête à un Viet Cong dans une rue de Saigon, et le type est en train de mourir. Là, pour le coup, c'est la fraction de seconde, la balle rentre dans le... Ça n'a choqué personne. Personne. Mais c'était pas un Américain. C'était pas sur le sol américain.
Et du coup aussi, donc cette photo représente vraiment ce que l'Amérique ne veut pas le voir d'elle-même. Et du coup, il y a eu, pour revenir à cette photo-là, il n'y a pas eu de confirmation précise de l'identité de ce personnage-là qu'on voit tomber. Il y a plusieurs théories, en tout cas, il y a plusieurs hypothèses, notamment parce que c'est très difficile de savoir exactement qui il était, parce qu'on ne pouvait pas l'identifier. Mais vous avez fait le choix de retenir une hypothèse parmi d'autres pour incarner cet homme-là qui tombe, un certain Norberto Hernandez, qui était portoricain. Alors, qui est-il et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage-là en particulier? Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous?
Alors, Norberto Hernandez est un enfant d'une famille de 16 frères et sœurs. Il comprend très vite que Porto Rico et ses belles plages, ça va pas lui faire sa vie. Donc, il tente le rêve américain. Donc, il émigre. Et il arrive à New York. Il devient plongeur, sans faire de mauvais humour, plongeur au Windows of the World, qui est le restaurant qui est au sommet des tours. Le restaurant le plus haut du monde à l'époque, le plus rentable. Et il travaille dur. Il devient employé du mois. Le directeur du restaurant lui offre des études. Vous voyez, le rêve américain. Il devient pâtissier. Au moment du 11 septembre, il est chef pâtissier. Et donc, il est l'exemple même de la méritocratie américaine, du fait que c'est un pays de migrants qui peut s'élever dans l'échelle sociale. Et d'ailleurs, physiquement, tous les jours, il prenait l'ascenseur et il montait à plus de 120 étages. Et puis, socialement, il s'élevait aussi. Et là, en quelques secondes, il fait le chemin inverse.
Et la symbolique, la première.
Il y a une symbolique. Ça, c'est la première des symboliques. La deuxième, c'est que une heure après, la tour s'effondre. Et là aussi, l'Amérique triomphante capitaliste, etc., c'est le Windows of the World. Mm. On domine le monde, on voit loin, et l'immeuble s'effondre comme un château de cartes. Et là, l'Amérique triomphante, elle est plus du tout triomphante. Elle est mise à terre, elle est à bas, elle est humiliée. Et c'est ce en quoi cette photo, elle est vraiment iconique. Pour revenir à Norberto Hernandez, si c'est pas lui, ça peut ne pas être lui. Alors, Norberto, permettez-moi d'être sordide, mais en tout cas, une partie du corps de Norberto Hernandez a été retrouvée. Un bras et un tronc, donc avec l'ADN, on a pu rendre à la famille. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est celui qui est sur la photo? C'est justement la question. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un financier, un comptable, tel qu'il est vêtu. Il est vêtu, comme un employé du Windows of the World. Il a des bottines, généralement les hommes d'affaires portent des souliers, il a une veste blanche, celle des pâtissiers, il a les cheveux noirs, plaqués, il a le teint mat, c'est un portoricain. Mais ça aurait pu être Jonathan Braille. Jonathan Braille, c'est le frère du chanteur des Village People.
Oui.
Eh bien, lui, ce jour-là, il n'était pas en radio, il était technicien son, parce que ce matin-là, il y avait un événement d'une entreprise et il fallait sonoriser les micros pour les discours, etc. Mais ça aurait pu être lui. Il y a d'autres noms qui ont circulé, mais qui sont moins crédibles, parce que c'est des noms qui ont été donnés par des gens qui étaient beaucoup moins fiables. La femme de Norberto Hernandez, quand un journaliste lui a montré cette photo à l'époque, donc on est en 2001, c'était il y a 25 ans, elle dit ceci qui est terrible: cet homme n'est pas mon mari, c'est une merde. Holy shit.
Ah oui.
Et oui, parce qu'elle était catholique, pratiquante, fervente, et un catholique ne se suicide pas.
Elle ne pouvait pas croire, elle pensait qu'il s'était suicidé.
Alors c'est toute la question. Est-ce qu'il s'est suicidé? Là aussi, dans le livre, je raconte qu'il y a... C'est ça qui est le plus terrible. C'est-à-dire que cette photo, elle est hypnotique parce qu'elle donne le vertige. On a envie de la voir, on a envie de la repousser. Et puis en même temps, elle nous interroge au plus profond. On aurait fait quoi, nous? Vous auriez fait quoi, vous auriez sauté? Vous auriez eu la conscience de sauter, mais sauter pour faire quoi? Pour mettre fin à vos jours ou pour vous envoler? Moi, je crois tout simplement que ce type-là s'est échappé. Il a fui. Je crois qu'à un moment donné, on n'a plus les connexions. Là, on parle tranquillement autour de ce micro. On est structuré. On n'a pas peur. On n'a pas chaud. On n'est pas brûlé. On n'entend pas des gens. Il n'y a pas l'odeur de chair humaine. On n'entend pas les cris, etc. Donc, on peut raisonner. Mais quand on est là-haut et que je pense que vous échappez. Je pense que vous réfléchissez pas. Mais pour l'Amérique, qui est chrétienne, l'idée du suicide, on y revient, c'est ce qui provoque peut-être cette autocensure qu'il y a eu dès le 13 septembre 2001.
Eh bien, merci beaucoup, on aura l'occasion de revenir sur votre livre en deuxième partie d'interview avant une petite pause musicale.
Ok, un peu plus de son dans le cas. Ouais, comme ça c'est bon. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je fus choqué dans mon intime et je vous jure que si je n'avais pas eu la foi, j'aurais eu honte d'être musulman. Après ça, fallait qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi, nous n'étions que des hommes. Que s'il y avait des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Après cela, on a tous été pointés du doigt. Ils se sont demandé, peut-être qu'ils sont tous comme ça. Les canons se mirent à bombarder Bagdad et des corps s'effondrèrent en Espagne. Nos leaders se mirent à geindre et la Suisse sur un plateau de télé face à un homme d'État mélangea la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je découvris la suspicion. C'est quand un homme a peur et que l'autre en face ne le rassure pas. C'est quand celui qu'on croyait connaître devient soudain celui qu'on ne connaît pas. Les Pays-Bas assassinèrent le descendant d'un peintre de renom. La France continua à dire non. L'Europe se scinda en deux. Les uns et les autres qui ne voulaient pas qu'on confonde la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. J'avais la conviction intime ce septembre 2001 que, comme avant, il n'y aurait plus rien. Et en un sens, c'était sublime. Le grain disait adieu à livrer. Alors une parole de paix, j'allais pouvoir délivrer. Ainsi tous se reconnaîtraient dans la grande famille de l'humanité qui, naturellement, viscéralement, ne confondrait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. On allait tout déconstruire. Déconstruire avec 3D, comme Deleuze, Derrida et Debré. Ni fondamentaliste, ni extrémiste de l'islam ou de la laïcité, mais là, ça devient lourd, je crois. Trop compliqué, en tout cas. Et puis moi, je ne mélange pas la politique avec la foi. Et au fait, ce mois-là et le mois qui a suivi, il y a eu l'album de Jay-Z, Blueprint, une leçon. Et le premier classique de Wallen, à force de vivre, avec celle qui a dit non. Et le bouquin de Jonathan Franzen, les corrections. Et moi, moi qui ne faisais rien, qui galérais à la maison. Ah si, je changeais les couches de mon fiston.
Nous venons d'écouter 12 septembre 2001 de Abdal Malik.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Le Caplin, interviewé par Vladimir.
Oui, bon, on est toujours avec Philippe Le Caplin autour de son livre qui vient de sortir, L'homme qui tombe, aux éditions Libris Ferra, et donc qui parlait justement de cette photo si célèbre de cet homme qui tombe des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, le jour de l'attentat des tours du World Trade Center. On avait abordé plein de choses du coup en première partie. En deuxième partie d'interview, j'avais une petite question sur comment est-ce qu'en tant que journaliste, puisque vous êtes journaliste radio à RFI, vous avez vraiment trouvé l'équilibre entre à la fois la rigueur documentaire que vous demande votre métier de journaliste et aussi le drame des vies que vous racontez à travers, parfois de manière assez crue, à travers ce livre-là. Comment est-ce que vous avez réussi à équilibrer un peu les deux?
Vous avez utilisé le terme « raconter ». Raconter. C'est pas une... J'écris pas un article, j'écris pas un essai, j'écris pas une interview, je raconte. En fait, je le raconte comme j'aurais aimé peut-être qu'on me le raconte si j'avais pas vu l'image. J'ai tiré un fil et puis j'ai pris des notes et puis c'était un peu foutraque. Je suis pas commencé le livre comme certains auteurs le font avec des fiches, avec un scénario, un script, première partie, deuxième partie, etc. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir écrit les chapitres dans le bon ordre. Par contre, ce que je voulais pour créer du rythme, et ça c'est un truc de radio, vous savez ça, Vladimir, c'est qu'il faut du rythme. Il faut que quand c'est terminé, je pense que ce sera le cas à la fin de cet entretien, on se dit ah ouais, c'est déjà fini quoi. Bah, le bouquin c'est pareil. Déjà, vous avez vu, c'est 160 pages, c'est très ramassé, ça va vite. Donc ça, je crois que c'est ma déformation
formation professionnelle. Après, dans le récit, je voulais qu'il y ait une alternance, c'est-à-dire qu'on parle de la photo, du photographe, de la personne qui est sur la photo, et puis on revient sur le photographe, avec à chaque fois, bien évidemment, un apport sur jusqu'à ce que les émotions viennent. Quant à l'écueil que vous suggériez, ça me fait très plaisir parce que les premiers retours me disent non, c'est pas voyeuriste, même si vous l'avez dit, c'est cash, mais il y a de l'émotion, alors pas larmoyante, je pense pas, mais de l'émotion parce qu'on se met à la place de cette personne-là, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui rend, je pense, ce récit raconté humain. Ça, c'est très important, parce que c'est un homme qui est sur cette photo, dramatique, glaçante, hypnotique, belle, il faut le dire. Je dirais les graphiques. À gauche, c'est foncé, c'est la tour 1. À droite, c'est la tour 2, elle est plus claire. Et pile au milieu, vous avez cet homme qui a une position très esthétique d'ailleurs.
Avec une forme de presque de désinvolture, on a l'impression qu'il flotte ouais. dans l'air. C'est, et c'est assez pour ça, bouleversant comme photo.
Richard Drew, qui est donc l'auteur de cette photographie, a dit « c'est calme ». Ouais, il se dégage une impression de calme. Alors c'était le chaos, il y avait le bruit des sirènes, vous aviez le breaking news sur toutes les chaînes de radio et de télé, vous aviez le bruit de la forge, les kérosènes par centaines de milliers de litres qui brûlaient, etc. Et là, vous avez cet instant suspendu, vous comprenez l'ambivalence de ce terme, au moment où ça arrive.
Et justement, du coup, dans ce rapport entre votre travail de journaliste et juste le fait d'écrire des récits comme ça, je me souviens d'une interview que donnait Fabrice Arfi, notamment parce que lui aussi a écrit beaucoup de récits, notamment des fictions. Donc lui, en tant qu'enquêteur, qui lui vraiment va essayer d'aller au plus profond des faits, il cherchait dans le fait de pouvoir écrire aussi des fictions, ou en tout cas comme par exemple D'Argent et des Sangs, qui a ensuite été adapté en série avec Vincent Lindon, etc. Il disait justement qu'au contraire, lui en tant qu'enquêteur, le fait de mettre la vérité toujours au milieu dans des articles, etc., et ben, cette vérité-là pouvait être, on va dire, éclairée d'un jour différent par le récit, par la fiction même parfois, qui va se servir aussi des faits qui sont avérés pour y apporter quelque chose, une autre saveur. Est-ce que vous voyez ça un peu la même chose aussi pour
le récit romancé? Tiens, si je vous dis que c'est un roman, ben non, c'est pas un roman dans l'idée que ça a été inventé, mais c'est un roman dans la mesure où ça est raconté. C'est raconté, donc c'est un récit. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qui permet non pas de prendre des libertés, mais de pouvoir être finalement au plus juste, parce que on n'est pas derrière tous les gens, dans tous les instants. Enfin, on n'est pas Big Brother, on n'a pas tout vu. Donc à un moment donné, il faut essayer de comprendre comment ça, les faits ont pu se découler. Des faits qui... c'était il y a 25 ans, déjà. Alors, vous êtes peut-être un peu jeune, mais tout le monde, à partir où on a plus de 20 ans, se souvient de ce qu'on a fait. Moi, je pose la question aux gens qui veulent bien venir à ma rencontre et acheter le bouquin. Et il y avait une dame qui, à l'époque, était une petite fille, 5 ans. Je lui dis, mais vous avez le souvenir de ce que vous faisiez à 5 ans? Elle me dit, bah oui, parce que ma mère était au boulot et ma mère appelle ma nounou en disant, je vais pas rentrer tout de suite, hein. Parce que, elle est journaliste à Libération. Et donc, que fait la nounou? Elle allume la téloche. Et donc, la gamine, pendant plusieurs heures, en boucle, jusqu'à ce que sa mère arrive et la mette au lit, elle a vu les attentats du 11 septembre en direct.
Donc, en fait, malgré parfois la froideur qu'on peut retrouver dans les enquêtes journalistiques, il y a justement quelque chose de très physique, en fait, et de très humain qu'on ressent par rapport à des grands événements comme ça. Et c'est ça que vous avez voulu aussi mettre en valeur à travers ce livre, quoi.
Oui, absolument.
Ouais. Ces événements qui ont un impact international sont aussi vécus par des individus et sont traversés par des...
L'histoire, c'est juste... c'est l'addition de destins de milliers, de centaines de milliers de personnes. Et ce jour-là, par cet homme, enfin, pas par sa faute en tout cas, on est rentré dans une nouvelle ère, dans laquelle on est toujours 25 ans après. La Première Guerre mondiale, c'est 4 ans. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 5 ans. Celle-là, ça fait 25 ans qu'elle dure. C'était certainement la plus longue guerre de l'histoire, si on met à part la guerre de 100 ans qui a été
justement, reviens un petit peu dessus. C'est quoi cette guerre, du coup, dans laquelle on est depuis le 11 septembre 2001?
C'est une guerre de valeurs. On peut peut-être même dire une guerre de civilisation. Comme il y en a eu avant, la guerre froide, ça a été aussi un affrontement de blocs. Donc là, on vit toujours dans cette espèce de jalousie, de déni des uns par rapport aux autres. Je ne veux pas que tu vives comme ça, je ne veux pas que tu puisses t'amuser, je ne veux pas que tu puisses penser autrement que moi. on est dans ça. C'est parfois un peu brouillon. Mais de fait, vous avez grandi dans cette société-là. Alors, c'est pas aussi stressant parce que c'est ponctuel. Une fois, c'est la guerre en Iran, une fois, c'est la guerre en Afghanistan, une fois. Mais tout cela participe de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001.
Et à cette, donc, selon vous, les États-Unis ne sont jamais remis de cet événement-là et continuent encore à mener cette guerre à la fois dans les consciences, à la fois dans les. Dans la manière d'appréhender leur rôle dans le monde, parce qu'on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de bouleversements géopolitiques ces dernières années, ouais. Que les États-Unis ont perdu un petit peu de ça. Est-ce que du coup, dans les événements qu'on voit au niveau géopolitique, il y a encore cette espèce d'angoisse-là fondamentale
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette image, elle ne passe toujours pas.
L'image, la photo.
Pas plus tard qu'il y a deux semaines. Tous les jours, je publie un réel sur philippe.lecaplin, Insta, et sur Facebook. Écran noir, avertissement, Meta. Attention, le contenu de votre poste peut
heurter
la sensibilité, etc. Veuillez confirmer, cliquez là. 25 ans après, cette photo fait toujours débat, suscite autant de craintes. Voilà, la réponse, elle est là.
C'est-à-dire qu'il y a encore, en tout cas autour de cette photo-là, de ce récit-là, quelque chose qui crispe encore, qui vraiment vient heurter les gens. Mais c'est vrai que quand on la regarde aujourd'hui, c'est sûr qu'on est à la radio, c'est un peu difficile de juste la décrire, mais c'est vrai que c'est une photo qui frappe. Quand on sait le contexte, quand on sait d'où ça vient, c'est une photo devant laquelle on ne peut vraiment pas rester indifférent.
Et avec cette polémique qui revient assez souvent, c'est... oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est un peu provoquant, hein, c'est une belle photo. Mais c'est insupportable de dire qu'une photo est belle quand il y a quelqu'un qui va mourir.
Oui, bien sûr.
Et c'est une polémique qui a été infligée et ça a été reproché à Sébastien Salgado qui est décédé d'ailleurs actuellement à la mairie de Paris. Il y a une exposition de ses photos de Sébastien Salgado. Et on lui faisait le reproche et la remarque en disant mais attendez, vos photos sont belles, c'est quand même insupportable de faire votre beurre et de faire de belles photos sur le malheur du monde. Donc c'est les guerres imperoses, c'est la déforestation, c'est la pollution au Koweït après la guerre, etc. Et il avait répondu que s'il fallait passer par là pour sensibiliser les gens et leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, ça ne le gênait pas. Ça ne le gênait pas. Et c'est ça le malaise de cette photo, c'est qu'elle est belle. Et je vous dis, comme le vertige, elle attire, hein, quand vous voyez la couverture, en plus vous avez vu le livre, j'ai demandé à ce qu'il ait une forme oblongue, c'est-à-dire rectangulaire, comme une tour. Elle attire et en même temps, elle repousse. Ben voilà, ça tourne en boucle depuis 25 ans.
Et pas simplement pour une question voyeuriste aussi, je pense que c'est aussi parce que tout ce qu'elle évoque, l'opulence américaine dans les tours, la chute de cet homme-là, ce que vous décrivez aussi avec son ascension sociale du rêve américain et aussi sa chute, comme un peu l'Amérique pouvait l'être voilà, à la fin des années 90 et début des années 2000. Et du coup, il y a aussi ce rapport-là qui a énormément évolué par rapport à ce 11 septembre, il y a eu le rapport à la sécurité. On l'a vu beaucoup aux États-Unis, le rapport à la sécurité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va sécuriser l'espace public, les aéroports, le fait de pouvoir voyager. Avant, on le faisait plus ou moins librement à travers tout ça. Nous, on l'a vécu aussi en France avec les attentats du Bataclan, où notamment il y a eu une vague un peu sécuritaire. Est-ce que vous diriez que ce moment-là a été aussi un tournant dans cette manière dont nos mondes s'organisent et dont cette espèce d'état d'urgence permanent a été installé ?
Bah absolument, on va être très concret, hein. Prenez l'avion demain. Bah, vous allez passer un premier filtre, un deuxième filtre, on va vous demander de vous déchausser, de passer vos bagages, machin, etc. Ça n'existait pas le 10 septembre 2001. Et ça, c'est mondial, et c'est partout. Et c'est très contraignant, et c'est une manière de restreindre très concrètement nos libertés. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, je ne vais pas vous faire un essai philosophique, machin, etc., et politique. Prenez juste ce fait-là, et vous voyez les conséquences que ça a encore aujourd'hui. Et ce n'est qu'une parmi tant d'autres.
Il nous reste une petite minute du coup pour clore cette interview, mais vous serez où prochainement pour présenter ce livre-là, pour que les gens vous rencontrent éventuellement, le trouvent, l'achètent déjà, où est-ce qu'on peut l'acheter et où est-ce que vous serez prochainement pour le présenter?
Alors on peut l'acheter sur le site de l'éditeur, Libris Ferra, à la Fnac, sur Amazon, enfin à peu près partout. Il faut le commander en librairie, il n'est pas sur pile comme on dit dans le monde de l'édition. Et je serai prochainement le samedi 27 juin à Créteil en Poche, qui est un très grand salon qui se trouve dans le Val-de-Marne, où il y a de très grands auteurs. J'ai réussi à avoir ma petite place pendant 2 heures pour rencontrer les gens. Et c'est vraiment un moment très agréable, parce que moi, je leur pose toujours 2 questions aux gens. C'est qu'est-ce que vous faisiez, où vous étiez le 11 septembre? Et la deuxième question, cette photo, elle vous inspire quoi? C'est très très intéressant. Il y aurait de quoi, non pas faire un autre livre, mais de faire une petite annexe avec le témoignage des uns et des autres.
Bah, n'hésitez pas du coup à aller y faire un tour pour rencontrer Philippe Le Caplain, voir son livre et puis aussi vous poser cette question-là de où vous étiez le 11 septembre 2001. Merci infiniment d'avoir été avec nous,
merci, Philippe
Le Caplain, pour votre livre « L'homme qui tombe ».
Merci beaucoup Vladimir et merci beaucoup Philippe Le Caplain d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le Flash Info avec Fabien. Bonsoir Fabien.
Bonsoir et on commence avec la France. Un rassemblement est prévu le dimanche 21 juin 2026 à 14h, boulevard Marguerite de Rochechouart à Barbès, dans le 18e, à l'initiative de Bali Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis. L'appel est soutenu par la CGT, la LDH, les Jeunes Insoumis et de nombreux élus de gauche. La mobilisation est portée par un slogan mettant un coup KO au racisme, à toutes les discriminations et à l'extrême droite. France toujours. Le thermomètre n'a pas fini de grimper. Météo France a placé 53 départements en vigilance orange canicule à minuit. Demain, des températures de 35 à 38 degrés sont attendues. Les services de l'État sont mobilisés pour suivre la situation et limiter les conséquences de ces fortes chaleurs dans la capitale. États-Unis. Accord entre l'Iran et les États-Unis. Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué jeudi 18 juin l'accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a signé depuis le château de Versailles l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Ukraine-Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin à Évian, en France, durant lequel 6 des 7 dirigeants du G7 espèrent convaincre Donald Trump de soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie. Le président ukrainien a d'ailleurs fait savoir lundi qu'il avait proposé de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du G7 en France, mais que la Russie n'était pas prête à négocier. Et enfin, pour terminer, sport. Si la France a Kylian Mbappé, l'Argentine peut toujours compter sur Messi. L'Argentin de tous les records s'est offert un triplé dans la nuit du mardi 16 juin à mercredi 17 juin pour son entrée dans sa 6e Coupe du Monde et a permis à l'Argentine de facilement s'imposer 3-0 contre l'Algérie.
Merci beaucoup Fabien pour le Flash Info. Tout de suite, on va retrouver Camille et Théophile de Petit Bain, interviewés par Betty. Mais juste avant, on écoute ça. on vient d'écouter Comme avant de Barcanan sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on retrouve Astrid pour sa chronique qui ce soir va nous parler de tennis. Bonsoir Astrid.
Bonsoir à tout le monde. Roland-Garros 2026 est à peine terminé que le monde du tennis est à nouveau bousculé. The Queen is back. La reine Serena Williams annonce son comeback début juin. Au prestigieux Queen's Club de Londres, elle effectue son retour après plus de 1300 jours d'absence sur le court. Elle joue en double avec la jeune Canadienne Victoria Mboko, de 25 ans sa cadette. Malgré une belle performance et une victoire, l'histoire se termine trop tôt. La Canadienne se blesse. Mais Serena a faim et annonce sa participation au tournoi de Berlin en double avec la Tchèque Karolina Muchová. Malgré une défaite, toute l'actualité tourne autour de Serena le 16 juin lorsque les wildcards, les invitations sans qualification pour Wimbledon sont annoncées. Et la sensation est totale. Serena y jouera en double avec sa sœur Venus. Fin juin, les sœurs Williams seront réunies. Une équipe qui fait rêver quand on pense aux 14 titres de Grand Chelem et aux 3 médailles d'or olympiques remportées ensemble. Le retour de Serena sur le circuit est une surprise. Certes, sa sœur a repris la raquette après plusieurs années de retraite, mais Serena, elle, s'y opposait. Fin 2025, alors que des rumeurs évoquaient déjà un éventuel retour, elle avait tout démenti sur les réseaux sociaux. À peine 6 mois plus tard, tout a changé. L'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis a changé d'avis. Mais pourquoi ? Cherche-t-elle un 24e titre de Grand Chelem pour égaler Margaret Court ? Veut-elle combler un vide laissé par une carrière aussi exceptionnelle ? Ou a-t-elle simplement besoin de retrouver l'adrénaline de la compétition ? Ces questions reviennent toujours lorsqu'un grand champion annonce une nouvelle tentative. On l'a vu avec Tiger Woods, Michael Jordan, Tom Brady ou encore Lynn Seven. Des légendes de sport reviennent. Certains parviennent à prolonger leur succès, voire à écrire un nouveau chapitre de leur légende. Mais que peut-on attendre de Serena Williams ? Le tennis féminin est aujourd'hui extrêmement dense. Les meilleures joueuses sont dans la force de l'âge. Arina Sabalenka, par exemple, ou Coco Gauff. Une mère de deux filles, âgée de 44 ans, a-t-elle les moyens de rivaliser avec cette nouvelle génération ? Si l'on écoute Serena Williams, elle ne cherche pas la rivalité. « Je n'ai pas besoin de gagner, j'ai déjà gagné plus que la plupart des gens dans toute leur vie. Ce n'est pas important pour moi », a-t-elle déclaré à Berlin. Elle veut simplement s'amuser. Pourtant, il est difficile de croire que cela lui suffise. John McEnroe, ancien joueur de tennis également, se montre sceptique. « J'ai été très surpris, mais elle a manifestement des idées derrière la tête. Je ne crois pas qu'elle revienne pour ne pas gagner. » On ne connaîtra peut-être jamais toutes les motivations ni toutes les ambitions derrière le comeback de Serena Williams. Mais une chose est sûre, le tennis en profitera. Serena Williams est une marque, c'est une superstar du sport mondial. Même si son objectif était simplement de retrouver la lumière des projecteurs, le tennis y gagnerait. Et qui sait, peut-être reviendra-t-elle plus forte que prévu. S'il existe une joueuse capable d'accomplir l'improbable, c'est bien elle, la Queen.
Merci Astrid pour ta chronique. Tout de suite dans la matinale, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et le Zoom qui ce soir est animé par Betty. Bonsoir Betty.
Bonsoir Gauthier, bonsoir Théophile et Camille.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'équipe qui fait tourner le lieu culturel flottant appelé le Petit Bain. Avec cette chaleur, ça donne un petit peu envie de prendre un petit bain glacé. Vous êtes situé à même la Seine. Puisque je l'ai dit, vous êtes flottant, donc dans le 13e arrondissement. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter le lieu, sa naissance et le projet qui est développé ?
Oui, on va essayer de le faire assez bref parce qu'on n'a que 10 minutes. Petit Bain, en fait, c'est 15 ans cette année déjà, du 2 au 5 juillet. Donc ça fait 15 ans qu'on est implanté au même endroit, aux 7 portes de la gare, métro, quai de la gare ou François Mitterrand, pour les Parisiens, Parisiennes. On est un établissement culturel flottant qui accueille plusieurs espaces, une salle de concert de 450 places, un resto et une grande terrasse qu'on ouvre à peu près 6 mois dans l'année. Sur laquelle on fait aussi des événements, en général gratuits, enfin donc dans la salle de concert des événements plutôt payants et dans la salle, dans le rooftop, sur le rooftop et la cantine des événements gratuits. C'est un projet qui accueille toutes les esthétiques musique actuelle, différentes sans vraiment sans distinction de genre. Et l'idée du projet aussi depuis sa création, c'est vraiment d'être un acteur fort du territoire du 13e arrondissement. Et dans ce cadre-là, on a aussi déployé un volet action culturelle depuis la création du lieu. qui fait vraiment partie intégrante du projet. Les actions culturelles, enfin Théophile sera là pour en parler éventuellement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir nouer des relations fortes avec différents partenaires du champ social, du champ de la santé aussi, sur des actions en lien avec la musique.
Super, Théophile, je ne sais pas si vous voulez préciser des choses sur les actions culturelles ou...
Les actions culturelles, en vrai, à Petit Bain, c'est assez large, assez vaste. Je pense que l'idée principale de base, c'est vraiment d'aller chercher les publics pour essayer d'inclure au plus les personnes dans une salle de concert, notamment là à Petit Bain. Et ça va passer déjà par une politique, on va dire, tarifaire, notamment pour les étudiants. On a à chaque fois sur chaque salle de concert, chaque événement concert, des... prix
préférentiel
exactement pour les étudiants et étudiantes. Et sinon, au plus long terme, c'est aussi monter des projets d'ateliers musique avec les associations, aller chercher des publics, monter des projets
plus éloignés de la culture.
Okay. Donc ça peut passer d'ateliers DJ par exemple, ou aussi d'ateliers de production sonore où on va essayer de monter des morceaux directement avec des mineurs non accompagnés par exemple, quand on parle de certains centres d'hébergement d'urgence avec lesquels on travaille. C'est assez vaste dans les projets, mais en vrai c'est des beaux projets en général.
Tout à fait.
C'est super intéressant. Et j'ai lu que vous aviez une forme juridique un peu particulière, vous êtes une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça implique en fait du coup dans le projet? Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être une coopérative?
Il y a plusieurs particularités avec ce modèle juridique. Peut-être pour aller assez vite et pour pas rentrer dans le détail, dire que l'idée d'une société coopérative, c'est de relier au projet artistique et culturel différents acteurs et actrices autour de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on a différents collèges de sociétaires au sein de la gouvernance, qui peuvent être les salariés, qui peuvent être les usagers et les usagères, qui peuvent être les artistes. Et l'idée, c'est que tout ce beau monde gravite autour du projet et puisse l'aider à se développer. L'idée aussi d'une société coopérative, enfin, on est une entreprise privée, mais on a un but non lucratif, donc c'est vraiment de promouvoir et de militer pour l'intérêt général. C'est aussi pour ça qu'on est sur des esthétiques musicales variées, des projets d'action culturelle, etc. Quand on schématise assez rapidement, enfin, on est plutôt une société qui défend en tout cas une certaine horizontalité qu'on essaye de retrouver à certains endroits du projet. Par exemple, dans le comité de programmation, où on a aussi un organe maintenant de comité de direction. L'idée, c'est d'avoir des zones d'échange et de partage et de contrer un peu le modèle vraiment vertical d'une entreprise privée.
Donc, si je vous suis bien, la programmation, elle est un peu discutée avec tout le monde. Enfin, évidemment, j'imagine qu'il y a des choix qui sont faits aussi par les salariés, par les personnes qui travaillent, etc. Mais il y a aussi cette idée de un peu horizontalité, en fait.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Évidemment, après, il y a des organes qui vont trancher, qui vont décider. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Et notamment, là, je pense aux 15 ans, qui ont vraiment été quand même chapeautés par Johannes, qui est directeur artistique de la structure. Mais c'est l'ensemble de l'équipe qui a un peu construit aussi ce projet-là, avec des propositions d'actions qui peuvent sortir un peu de la ligne concert pur, qui peuvent être des actions hors les murs, des actions... On a notamment un DJ Brodinski, qui va jouer à la piscine Joséphine Baker, juste à côté de chez nous. Enfin voilà, il y a plusieurs actions qu'on relie aux 15 ans et qui peuvent émaner de différentes personnes de la structure.
Super. Et donc, pour peut-être un peu illustrer tout ce qu'on est en train de dire maintenant, on peut peut-être parler de votre festival, le Welcome Day Festival que vous organisez avec Refugee Food.
Oui.
Donc, c'est un festival qui est pensé comme un lieu de rencontre humaine et artistique entre des Franciliens et des Franciliennes, des personnes en situation de migration. Pardon, j'ai un petit peu fourché. Comment est né ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle est la programmation? Je vous laisse...
Je te laisse faire la naissance du projet.
Je fais l'historique et tu fais le déroulé. Ce projet, enfin, le Welcome Day, on va dire que c'est un peu l'aboutissement annuel du projet Welcome. Welcome, c'est un projet qu'on a lancé en 2016 avec Emmaüs Solidarité au moment où il y avait une grosse crise migratoire, notamment en région parisienne. On a rencontré les équipes d'Emmaüs Solidarité avec qui on a eu, enfin, je dis on, c'est Ricardo Esteban qui est fondateur de Petit Bain. C'est de lui que vient cette idée-là. L'idée, c'était de se dire, nous, on sait faire des concerts, on sait organiser des concerts. Il y a des centres d'hébergement d'urgence dans lesquels des personnes restent 1, 2, 5 jours, des fois 6 mois, des fois 1 an, on peut venir déployer une scène, venir avec des artistes, avec une équipe technique et proposer un concert. Souvent, c'était suivi d'un repas dans ces espaces-là. On a tenu ce projet pendant des années. Là, on fête donc les 10 ans du projet Welcome 2026. Et on a mené dans différents centres des actions ou ponctuelles ou régulières. Tout dépendait du contexte, des équipes sur place aussi, évidemment, parce qu'on s'est beaucoup reposé reposer, enfin reposer le mot est péjoratif, mais on est évidemment soutenu par les équipes sur place et c'est hyper important pour nous pour que ce projet puisse exister et perdurer. Ça, c'est dans les grandes lignes du projet Welcome. On a aussi mené pas mal d'actions culturelles, notamment au moment du Covid, où on ne pouvait plus se rassembler à plus de 10 par lieu. Ben, c'est le moment où on a commencé à mettre en place des ateliers de pratique dans ces centres aussi, avec plein de beaux projets autour de la musique, mais aussi même des fois autour du dessin, de la calligraphie. Enfin, on a fait des choses variées dans ces centres-là. Et donc, depuis 2018, on organise aussi le Welcome Day. J'aime bien que tu parles d'un festival, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas comme ça, mais on se dit, mais pourquoi pas, on a qu'à dire
en fait, beaucoup de gens disent festival en ce moment.
Ok, maintenant, on va dire qu'on fait un énorme festival sur un jour. En fait, ça nous prend tellement d'énergie qu'on pourrait dire que c'est un festival.
Ben, je laisse et ça a lieu quand, du coup?
Ouais, oui, on
a un peu des infos.
Exactement. Ben, alors, ça a lieu ce samedi 20 juin. Ça dure toute la journée, du coup. C'est vraiment une programmation de 11h à 2h du matin, avec... plusieurs parties, on va dire, dans la journée. Il y a une partie atelier, il y a une partie banquet, il y a une partie concert. Je vais essayer de détailler un peu plus, mais en vrai, dès 11h du matin, on a du yoga sur le rooftop avec Patricia, qui est très sympa, et on accueille du coup des personnes de centre qui vont aussi faire du yoga, et on mélange tout le monde, et c'est super.
Et ça, comment je m'inscris, par exemple?
Et malheureusement, il n'y a déjà plus
de
place.
Il n'y a plus de place,
c'est complet, succès cette année.
Mais c'est vrai que c'est, on va dire que c'est un peu l'activité qui est prisée, et qui en plus... on n'a pas beaucoup de place pour cette petite.
Okay.
Ensuite, à partir de midi, c'est Refugee Food qui prend le relais avec un énorme banquet de 150 personnes sur le quai devant un petit bain, où ils ont invité des chefs et chefs de Refugee Food.
Ouais.
Ils ont un super menu pour cette date-là et ça va être vraiment super. Et ensuite, on enchaîne à partir de 15h avec des ateliers gratuits, une super boom pour enfants sur le rooftop. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup cette boom pour enfants, hein, tu le sais très bien Camille, mais c'est vraiment une initiation clubbing pour les enfants, du coup c'est vraiment 0 à 99 ans, c'est possible de venir.
Ah super.
Et ça va être la grosse fête dès 15h.
Et donc ça je m'inscris pragmatiquement, enfin du coup...
Tu viens direct.
Je viens direct, sur place.
Exactement, tout l'après-midi, tout est gratuit, tout est libre d'accès.
Ok.
Tu peux même te faire masser gratuitement.
Tu peux même te faire masser gratuitement, on a un atelier sérigraphie où tu peux venir floquer des t-shirts gratuitement avec un visuel spécial pour la date.
Donc j'amène mes t-shirts?
Même pas besoin.
Même pas besoin.
On a les t-shirts à disposition.
On a pensé
à tout exactement. Et est-ce que j'ai oublié?
Et le soir, du coup, il y a des concerts.
Des très beaux concerts avec une line-up, du coup, avec Bachar Mourad, Maya Kamati, Felluri Andro et Asna. C'est assez éclectique, en fait, comme programmation. On va du rap, vraiment plus DJ, électro, en fin de journée. C'est assez vaste. Je pense que tu peux peut-être aussi plus présenter les artistes.
Le line-up est assez varié. Bachar Mourad, c'est un artiste palestinien. Maya Kamati, elle vient de La Réunion. Felluri Andro, c'est un duo hip-hop qui est notamment pas mal connu pour ses positions politiques. C'est aussi pour ça. Enfin, nous, on aime bien s'entourer de personnes qui sont sensibles aux enjeux sociétaux. Et évidemment, dans le cadre de ce projet-là, c'est ultra pertinent pour nous. Et Asna, qui est une DJ ivoirienne, qui vient avec deux danseurs, danseuses sur cette date-là. Donc, le line-up est paritaire et éclectique. Et en fait, pour nous, ça représente aussi beaucoup le projet Welcome, parce que l'idée, c'est de réussir à rassembler tous les gens autour d'une grosse fête, enfin, de faire la fête ensemble et de... j'ai pas envie de sortir une phrase très cliché, mais oui, de faire un peu tomber les préjugés et les barrières, ou en tout cas les distances qui sont là au quotidien. Là, l'idée, c'est vraiment de se retrouver sur une même scène et de pouvoir danser ensemble. Et franchement, dans le cadre de ce projet, on a vu des très beaux moments de danse qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, dans une salle de concert parisienne où le public, malgré tout, reste assez homogène, quoi.
C'est vrai qu'on a peut-être aussi oublié de préciser que sur cette date-là, on a 150 invités.
Ouais.
Des centres et des associations partenaires. Du coup, ça fait qu'il y a énormément de personnes aussi qui viennent en profiter absolument gratuitement.
Ouais.
Et c'est très sympa. On parle toujours beaucoup.
Super. Non, mais désolé, mais auditeurs, auditrices, vous avez compris. Si vous voulez venir vous rencontrer, danser, faire un atelier, amener vos enfants pour la boum d'enfants. C'était donc Théophile et Camille du Petit Bain. Merci beaucoup d'être venus à la matinale. Et donc, c'est samedi 20 juin. Oui. Venez. Voilà.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est le jour où il fera le moins chaud de la semaine en plus.
Eh bien, super.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Betty, pour ce Zoom. Merci, Camille et Théophile, d'être venus. Tout de suite sur Radio Campus Paris, on écoute Ailleurs de Ronnie.
Je prouverai partir doucement, me ramener à la maison.
On vient d'écouter Ailleurs de Ronnie sur Radio Campus Paris. Tout de suite, la chronique d'un certain Gauthier. Je ne sais pas ce qu'il sait, mais on va écouter ça tout de suite.
La matinale de 19h.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 82e chronique sur ces ondes et il se trouve que c'est aussi ma toute dernière chronique dans la matinale de Radio Campus Paris avant les vacances. L'occasion de faire un bilan, un best-of de toutes les émissions de la matinale de la saison. C'est parti.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bienvenue dans ce best-of de la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir, on va passer en revue les meilleurs moments de cette saison 2025-2026. Alors, cette année, comme les deux dernières années, on a eu du très très lourd dès la rentrée de septembre.
La chronique de Gauthier.
Gauthier,
Gauthier.
Gauthier,
Gauthier.
Gauthier,
Gauthier.
Gauthier,
Gauthier.
Gauthier,
Gauthier.
C'est Gauthier.
C'est Gauthier.
C'est Gauthier.
Gauthier.
C'est Gauthier.
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 Si vous n'avez pas la ref de ce qui va suivre, c'est normal, c'est la chronique de Gauthier.
Vous connaissez ses blagues, vous connaissez sa voix, vous connaissez son visage. Vous connaissez. Vous connaissez son visage, vous connaissez son prénom. Et surtout, vous n'avez pas été le voir dans la comédie musicale Life in the Cabaret les 12 et 13 juin dernier parce que vous n'en avez rien à foutre de sa gueule. Et vous trouvez des fausses excuses comme un week-end, des vacances ou encore une opération qui va vous sauver la vie, impossible à décaler. Vous ne l'avez donc pas vu jouer le rôle d'un nazi car. Attendez quoi, un nazi? C'est pas vrai, c'est qui lui donne les rôles là? L'année dernière, déjà, il jouait un flic, un militaire, c'est une évolution compréhensible, mais bien sûr, c'est Gauthier! Lui qui est une star internationale de Radio Campus Paris, mais une question est évidemment sur toutes les lèvres. Comment fait-il pour être aussi fort? Quel est le secret de son talent? Eh ben moi, je sais, c'est pas... Attendez quoi? Il existe pas? Hein? Quoi? Pardon, mais c'est quoi ce plus de merde? Gauthier ne peut pas ne pas exister, sachant que dans sa 46e chronique diffusée en juin 2024, on le voit interagir avec un certain Sébastien qui lui existe de source sûre, étant donné qu'il a été filmé par TF1 dans un reportage diffusé le 4 décembre 2007 au journal de 20h. Pour cause, on le voyait passer dans le fond à un moment. Après, peut-être que cette édition du journal n'était qu'un complot qui a été inventé pour faire croire à Gauthier que Sébastien existe, que Gauthier existe, alors qu'en fait rien n'existe. Peut-être même que Radio Campus Paris n'existe peut-être pas. Et que tout est une invention d'Emmanuel Macron, le président de la France, pour semer la zizanie chez les étudiants. Tout ça, c'est encore la faute à Macron. Mais attends, je sais comment je peux faire pour avoir la réponse. Vladimir ?
Oui ?
Est-ce que tu existes ?
Oui.
Ah bah, fausse alerte. Mes excuses, c'était une fausse piste. Tout va bien, finalement. Bah écoutez, c'est la fin de ce best-of.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Gauthier en train de jouer de la flûte de Pan en direct sur le générique de Radio Campus Paris. C'est beau à voir, encore plus beau à écouter, on vous laisse écouter. Wow, et bah quelle année hein. On a été excité, on a excité le bâtiment un bon nombre de fois, on a... Bonnes vacances. Merci Gauthier pour ta super chronique.
Ouais.
Qu'on ne qu'on ne définira pas en bien ou en mal, mais on laissera les auditeuristes juger sur pièce. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette superbe émission de la matinale de 19h. J'en ai fait un peu des caisses au début, mais il reste quand même une semaine. On laisse mes remplaçantes et remplaçants faire le travail pendant encore 4 jours, j'avais bien compté dès le début. Merci beaucoup à toute l'équipe de cette belle matinale. On était le 18 juin 2026. Merci à moi pour l'avoir présenté, parce que je pense que j'ai fait un super taf.
Bravo.
Merci beaucoup à Philippe Le Caplain d'avoir accepté notre invitation. Merci à Camille et Théophile exactement. Merci à Vladimir, à Betty pour l'interview, à Astrid pour la chronique, à Fabien pour le Flash Info. Merci à Luna pour la coordination de cette émission. Tout de suite, c'est l'Happy Hour scientifique. On va tout de suite découvrir de quoi vont-ils parler ce soir. De quoi vous nous parlez ce soir?
Ce soir, on va parler de naturopathie. On va enquêter sur ce business et sur les impostures scientifiques qui s'y cachent derrière.
Eh ben, on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup d'avoir écouté la matinale. À lundi, même heure, mêmes ondes. Salut!